Octave Mirbeau, des artistes, les pastellistes français. Voilà donc une exposition intéressante et charmante. D'autant plus intéressante et charmante qu'elle succède à l'exposition des aquarellistes, dont nous avons parlé ici même, avec tout l'irrespect qu'elle comporte, tout le mépris qu'elle mérite. Nous osons même espérer qu'après le succès des pastellistes français, les aquarellistes également français, car tout est français chez M. Georges Petit, s'en iront enfin exposer leurs œuvres chez les confiseurs du boulevard. Qu'ils n'auront plus cette impolitesse de convier le public à venir lécher les sucreries de Boissier-Vibert, les bonbonnières de Gouache-le-Loir, et qu'ils retourneront à leur sac et à leur compotier. Avouons, pour être juste, que l'intérêt de cette exposition nouvelle vient de ce que M. Georges Petit a eu la très heureuse idée de mêler aux œuvres d'artistes vivants des œuvres d'artistes morts tels que Latour, Chardin et Millet, qui font oublier tous les Émile Lévy, tous les Duèze et les quelques rastaquériques Tissot qui sont là comme par hasard. On pourrait dire, à titre de repoussoir, si ces grands maîtres de l'école française en avaient besoin pour faire éclater leur génie et leur beauté. On sait que M. Tissot est moitié anglais, moitié français, qu'il possède un atelier à Londres et aussi un atelier à Paris. Ce peintre fréquente la meilleure société, et les gens du monde et du demi-monde lui confient volontiers leur noble tête à pourtrecturer. Très selected, M. Tissot, très professional painter, enfin, ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, aucun talent. Pas même de l'habileté vulgaire, mais une agaçante prétention à l'original, au nouveau, à l'artiste. Sa peinture, imitée des pré-raphaélites anglais, des impressionnistes français et aussi des institutards de l'école, est bien la plus désagréable mixture qui se puisse voir. Du détail là où il faudrait des masses là où il faudrait du détail, un dessin hésitant et grossier et pas le moindre sentiment des valeurs. Telles sont les qualités de M. Tissot, qui est toujours à côté de la vérité, du goût et même du métier. Il ne dédaigne pas non plus le plagiat, mais il est presque aussi mauvais plagiaire qu'il se montre détestable inventeur. Son portrait de femme en robe noire et manteau de fourrure blanche est littéralement copié d'un magnifique portrait de Whistler qui figura au salon il y a 3 ans. Même pose, même ajustement, même arrangement, recherche du même sentiment et des mêmes effets. Mais quelle pauvre copie! Néanmoins, les amis et familiers des petites dames s'extasient fort devant les productions de M. Tissot, qui sont, paraît-il, indispensables à l'ameublement des cabinets de toilette, car on les retrouve toujours entre un bidet d'argent massif et des jeux de brosses d'écailles blondes. M. de Nitis est représenté par 17 pastels, dont quelques-uns sont fort importants et comptent le plus dans son œuvre. J'ai grand peur que la vogue, qui, au contraire des autres artistes, s'attacha à lui de son vivant, ne l'ait abandonné à sa mort. Il faut bien avoir le courage de le dire. Il y avait en M. de Nitis beaucoup plus d'habileté que de vrai talent. Il séduisait davantage par les qualités de prestidigitation dont il faisait preuve que par la sincérité, la personnalité qui ne se dégage pas nettement de ses œuvres. M. de Nitis avait beaucoup pris à Manet et surtout à Degas. Mais, en véritable Italien qu'il était, il pomponnait, enrubanait, embourgeoisait ce que les artistes sévères mettaient dans leurs toiles, d'art abstrait et de logique impitoyable. Certains peintres anglais avaient eu aussi sur lui une grande influence. Son imagination se débattait au milieu de toutes ces réminiscences qu'il gracieusait, qu'il mettait au point de séduction vulgaire, qui flatte l'amateur ignorant et moutonnier, et il n'a pas laissé une œuvre vraiment forte et qui vivra, comme vivront celles de ses persécutés, où il est allé chercher pourtant le plus clair de sa manière. J'ai été surpris et affligé de voir combien ces pastels célèbres, autour du Brasero, le tour du lac et les tribunes de Longchamp, ne me représentaient plus, dans sa fraîcheur, cette fleur d'art brillante, si unanimement saluée à son épanouissement. Hélas, le parfum déjà s'en est allé, parfum d'un jour, dit Shakespeare. Parmi les artistes modernes représentés à cette exposition, je ne parle pas de Millet qui est déjà dans l'immortalité. Il n'y a vraiment que M. Raffaelli devant qui l'on puisse s'arrêter avec intérêt. 10 pastels seulement composent son envoi, mais ils sont presque tous charmants. Peut-être ne valent-ils pas tout l'éloge que certains critiques jadis en ont fait, mais ils ont de sérieuses qualités. On se sent en présence d'un esprit qui n'est point banal, dont les recherches et les préoccupations d'art sont plutôt littéraires que picturales, et dont la vision, pour n'être pas toujours d'une sensibilité très aiguë et d'une intensité très profonde, n'en est pas moins toute personnelle. J'aime beaucoup le père Larifla, le vieux marchand de Mouron, d'un dessin très simplifié et pourtant complet. J'aime aussi ses paysages parisiens, où son imagination se plaît à remuer dans la lumière spéciale et l'air criard de Paris, le grouillement des foules et la vie des rues. M. Raffaelli est doué très vivement du sens de la modernité, et je ne sais pas de meilleur compliment à lui adresser en cette époque où tant de peintres qui prétendent faire du moderne n'arrivent qu'à caricaturer des corps antiques et des figures de la Renaissance avec de vieux habits achetés à la belle jardinière et dans les « décrochez-moi ça » des marchandes à la toilette. Nous voici devant les portraits de la tour et, à côté, on a mis ceux de son rival Perronneau, un peintre charmant qui vaut mieux à coup sûr que la réputation un peu effacée ou la reléguée la gloire envahissante de la tour. De la grâce, de l'esprit, de l'élégance, un dessin savant et délicat. Mais tout cela trop souligné, trop mièvre, trop abondant dans le détail, trop précieux, non point à la façon de la Rosalba, dont la mignardise agace, mais à la façon du siècle lui-même. Combien la tour reste plus grand, plus original, plus puissant. La tour qui sut donner au pastel les énergies de l'effet de la peinture à l'huile, et dont les crayons conservent encore la fermeté et l'indestructibilité de la pâte. Bien que beaucoup des portraits exposés datent de la fin de sa carrière, époque où la main du grand artiste hésita, tâtonna. C'est merveille, vraiment, que d'admirer cette série de chefs-d'œuvre du peintre de Madame de Pompadour. Il y en a là quelques-uns d'immortels. Celui du peintre Sylvestre, de Madame Mondonville, de Grimaud de la Reynière, de Mademoiselle Salé, et le sien, cynique, spirituel, insolent, la lèvre gourmande de plaisir et d'ironie, l'œil perçant et qui s'enfonce en vous comme une vrille. La tour a marqué chacune de ses figures de la fatalité de son métier et de sa position sociale. Il pénètre en son modèle jusque dans les replis les plus cachés du cœur. C'est un dessinateur impeccable, mais aussi un grand psychologue, un observateur profond à qui rien n'échappe, et qui rend tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il sait dévoiler. En somme, le véritable historien du XVIIIe siècle, l'historien de la femme, de l'artiste, du philosophe, du courtisan, du fermier général, de la légèreté et des élégances de ce monde rieur, passionné, discuteur vicieux, frondeur, sceptique. Et puis, le premier qui a mis ces personnages dans leur milieu vrai, au milieu de leurs habitudes de tous les jours, complétant ainsi, par la vie des choses, la vie des hommes. La tour reste certainement un des plus puissants génies de cette école française, si brillante, si nombreuse en talents immortels. Que dire du grand Millet qui n'a déjà été dit mille et mille fois? Si l'admiration, en face de ses œuvres admirables, trouve des émotions nouvelles et des sensations tous les jours plus vives, il n'en est pas de même de la langue qui a vite épuisé ses formules et vidé le dictionnaire de ses mots. On s'indigne toujours avec plus de colère de l'imbécilité des temps qui ont pu laisser dans l'obscurité et dans la pauvreté le si magnifique poète de la nature, celui qui, dans une vision splendide, faite de larmes et de lourds soleils, a si pesamment courbé l'homme vers la terre et l'a si intimement associé aux champs féconds et riches qui le nourrissent, aux bois, aux ruisseaux, aux durs sillons couverts de givre, au ciel gris de froid d'où tombent les neiges éclatantes et les noirs corbeaux. Nous avons salué le givre, le vol des corbeaux, le semeur, les premiers pas, la herse, l'angélus, et tous les chants de la plus belle épopée humaine qui jamais ait été chantée à la gloire de Dieu, de la nature et de l'homme. La France, 9 avril 1885.